C'est pas une vache, c'est un pangolin. Une émission proposée par Maxence Gross avec la complicité de Daniel Raffalin. Maxence Gross a suivi le souffle de l'aventure dans la jungle péruvienne en tant que guide naturaliste, à la tête de groupes de voyageurs auxquels il inculqua les valeurs de sauvegarde de la nature. Il s'adonna au même boulot sur les pistes de safari du Botswana, puis en Argentine, au Chili et en beaucoup d'autres lieux où sa curiosité et les opportunités professionnelles l'appelèrent. Au bout de 10 ans, un peu désabusé devant les attentes des touristes écolos, de plus en plus touristes et de moins en moins écolos, il se replie sur l'Europe. Aujourd'hui, Maxence nous fait partager ses aventures.
Maxence, dans une émission précédente, nous avons évoqué les aras, cette espèce de perroquet. Sont-ils faciles à observer ?
Oui, ils s'observent assez facilement. Mais dans leur forêt natale d'Amazonie, les aras font face à une grave crise immobilière. La destruction de leur habitat a réduit considérablement leur nombre et leur site de nidification. Leurs exigences en la matière, il faut l'admettre, sont très élevées. Le poussin restant au nid très longtemps avant son premier envol, le nid doit être bien à l'écart de tout prédateur. Il faut donc un arbre isolé, de taille et d'orientation adaptées, déjà creusé, souvent par un pic, comme on en trouve par exemple dans les marais ou sur les bordures des lacs. Alors le couple y dépose 2 œufs. Un seul survivra dans la plupart des cas.
Alors malgré cette crise du logement, il trouve quand même des nids ?
Difficilement. Le manque de sites de nidification est tel que les couples en arrivent à affronter physiquement d'autres couples pour défendre leur site, et ce plusieurs mois à l'avance. Il en résulte que chaque année, seul un couple reproducteur sur 5 a la possibilité d'engendrer une naissance. Si l'on ajoute à ces difficultés une maturité sexuelle tardive pour un oiseau, vers l'âge de 5 ans, pour une durée de vie d'environ 35 ans à l'état sauvage, on peut calculer qu'un couple produira en moyenne 6 poussins dans une vie, soit 3 descendants par individu tous les 35 ans. C'est un taux extrêmement faible dans le monde animal. Malheureusement, ça ne prend même pas en compte les autres menaces qui pèsent sur ces superbes oiseaux. Le commerce d'animaux de compagnie leur est particulièrement préjudiciable, par exemple. Pour domestiquer un ara, il faut le capturer dès le stade de poussin. Les parents, à l'aide d'un bec surpuissant, défendent leur seule progéniture avec virulence. Ils sont donc généralement abattus par les braconniers. De plus, pour atteindre un jeune dans un nid hors de portée, il faut détruire l'arbre, précieux site de nidification. Et c'est un commerce lucratif. Un ara apprivoisé se vend près de 5 000 $ sur le marché américain. En captivité, ils se reproduisent très mal, ils sont très bruyants, ils ne supportent pas la solitude. Ils peuvent transmettre aussi des maladies et ils peuvent atteindre 80 ans en captivité. Donc ne vaut-il pas mieux les voir sur leur colpa à l'aube d'une chaude journée amazonienne que ridiculiser lors de spectacles dans les eaux sur des petits vélos ou avec des petits ballons de basket dans le bec ?
Alors, en dehors de ces oiseaux, tu t'es aussi spécialisé dans les chauves-souris.
Oui, j'ai participé et mené quelques projets de recherche sur ces mammifères. Je précise que ça ne sont pas des oiseaux, les chauves-souris n'ont pas de plumes.
Alors, les chauves-souris, c'est plutôt la nuit qu'on peut les voir. Peux-tu nous raconter une soirée chauves-souris ?
Il est 19h, mettons. Je m'équipe de ma lampe frontale, je passe mon gilet à poche et je me dirige vers mes filets ouverts une demi-heure auparavant. Je sais que le premier relevé du soir est généralement fructueux. 4 chauves-souris reposent dans les mailles du filet et s'agitent un peu à mon arrivée. La nuit sera longue. Je dépose le premier animal sur un petit sac de coton et j'entreprends le démêlage du filet, en prenant soin de ne pas rompre ses membres fragiles. Je commence toujours par les pattes. C'est un travail délicat qui requiert l'usage constant des deux mains. Et tant pis pour les moustiques attirés par la lampe frontale qui profitent en traître de la situation. Les chauves-souris aussi mordent. Normal. Qui ne mordrait pas dans de pareilles circonstances? mais il faut supporter la douleur, sans quoi un geste brusque de recul peut leur arracher une dent. La première est du genre Eptesicus, il va falloir regarder les molaires pour reconnaître l'espèce. En attendant le retour au camp pour identification, je la place dans le petit sac, où elle s'accroche à la paroi et se repose un peu. Après l'avoir mesurée, pesée, identifiée, je retourne à côté du lieu de capture pour lui rendre sa liberté. Certaine, alors très en confiance, reste quelques instants dans ma main ouverte, me jetant un dernier regard comme pour dire « C'est vrai, je peux m'envoler, tu vas pas me manger alors ?» Puis elles disparaissent dans un souffle.
Alors nous sommes d'accord, rassure-nous, ces bestioles mangent des insectes, c'est bien ça.
En Amazonie, les chauves-souris ont utilisé toutes les ressources alimentaires imaginables, peut-être à l'exception des feuilles. Si la plupart se nourrissent en effet d'insectes et nous débarrassent d'un grand nombre de moustiques, beaucoup sont devenus nectarivores ou frugivores, participant ainsi à la pollinisation des fleurs et à la dispersion des graines. Les chauves-souris du genre Glossophaga, par exemple, sont de véritables colibris de la nuit. Elles volent en surplace devant des fleurs pour en lécher le nectar et visitent des centaines de fleurs en une nuit. Plus étonnant, certaines espèces ont évolué vers un mode alimentaire carnivore et se nourrissent ainsi de lézards, de petits rongeurs, de grenouilles ou même d'autres chauves-souris. Encore plus curieux, une espèce s'est spécialisée dans les petits poissons qu'elle capture en rasant la surface de l'eau avec ses griffes acérées. La couleur de ses poils est à peu près aussi incroyable que son régime alimentaire orange vif.
Parlons maintenant des vampires. Alors, légende, réalité ?
Évidemment, la palme du régime alimentaire surprenant revient bien sûr aux vampires, une chauve-souris d'Amazonie, et uniquement d'Amazonie, qui ne se nourrit en effet que de sang. Et qui existe bien, oui. Bien loin des légendes et des idées reçues, le vampire n'a pas les canines immenses qu'on lui prête couramment, elles sont presque inexistantes. Non, il utilise en fait ses incisives pour pratiquer une petite coupure dans la peau d'un mammifère, puis il lèche le sang qui s'en écoule. Sa salive contient un anesthésiant qui empêche le réveil de la proie et un anticoagulant qui garde le sang liquide. Leur résistance aux maladies sanguines est encore un mystère pour la médecine et fait l'objet de plusieurs études.
Et ces vampires, à qui s'attaquent-ils ?
À l'origine, ces proies étaient les mammifères sauvages d'Amazonie, les tapirs, les cerfs, les gros rongeurs. Mais aujourd'hui, l'homme lui a facilité la tâche en introduisant le bétail, proie bien plus facile et plus abondante et plus facile d'accès.
Et l'homme est-il aussi une victime potentielle ?
Bien sûr, mais il est très facile de s'en protéger. Une moustiquaire, de toute façon indispensable, suffit. Sinon, une bougie. Les vampires n'aiment pas la lumière. Mais sans protection, il est possible, surtout dans une zone d'élevage de bétail, de se réveiller avec de petites coupures sur les orteils ou du sang qui en coule encore. Rien de grave.
Et le vampire, à quelle taille ?
25 mètres d'envergure. Non, bien sûr que non. Le vampire mesure 8 cm de long pour une envergure d'environ une vingtaine de centimètres. Mensuration bien en dessous de celle que l'imagination collective leur prête. Les vampires sont des êtres extrêmement sociaux. Les membres d'un groupe, dans l'impossibilité de trouver à manger, se font nourrir par des congénères qui régurgitent volontiers une partie de leur ration de sang. Ils sont aussi très agiles au sol pour marcher ou courir.
Et leur nombre est-il important ?
Le nombre de chauves-souris, oui. Le nombre de vampires, non. À Manu, plus d'une espèce de mammifère sur trois est une chauve-souris, parmi lesquelles trois espèces de vampires. Seuls animaux à poils capables de réellement voler, les chauves-souris souffrent encore d'une réputation abominable auprès des populations locales, et même dans le monde occidental. Un matin, attiré par des bruits sourds et des cris, je me dirige vers la cabane du personnel dans le lodge où je travaillais. L'aide-cuisinier venait de mettre à mort à coups de polochon une jeune chauve-souris tombée dans son lit. Il lit dans mes yeux mon interrogation et m'affirme « Elle voulait me sucer le sang !» Je la prends et je l'identifie. Molossus molossus, une espèce strictement insectivore qui s'abrite souvent dans les toits de feuilles de palmiers des habitations.
Ouais, elles sont donc facilement victimes de méprise.
Oui, beaucoup, et d'ignorance. Pourtant, les chiroptères sont des mammifères fascinants et indispensables à leur écosystème. Elles pollinisent énormément de plantes utiles à l'homme. Elles dispersent les graines de bien d'autres, comme le poivre. Et surtout, et ceci peut aider à les aimer, une seule chauve-souris est capable de manger près de 1000 moustiques en une nuit.
Et à part les chauves-souris, je suppose qu'il y a beaucoup d'autres espèces d'animaux.
Il faudrait des heures, ne serait-ce que pour lister tous les animaux qu'on peut croiser en Amazonie. Mais pas moins de 13 espèces de singes sont recensées dans le parc national de Manu. Je connais une balade qui nous permet presque toujours d'observer des singes laineux. Ce sont de superbes primates aux poils épais particulièrement agiles. Leur poids ne dépasse pas 10 kg, mais leur pelage gonflé et épais, utile pour se protéger des parasites, leur donne une taille de labrador à peu près. Quand ils constatent notre présence, ils se mettent généralement à courir autour de nous dans les arbres à une vitesse incroyable. Ils s'accrochent avec leur queue préhensile et leur patte arrière et secouent violemment une branche avec leurs bras en nous considérant d'un air menaçant. Cela s'intègre dans une manœuvre d'intimidation et de revendication de territoire. Parfois même, ils tentent de faire leurs besoins sur nous ou nous jettent des branchages, heureusement avec peu de réussite. Un jour, on explorait ce sentier de la rive droite de la rivière Manu depuis une heure, quand la troupe de singes laineux se fait entendre. On s'approche, on cherche, je préviens mes passagers du comportement surprenant que peuvent avoir ces animaux. Mais rien de tout ça. Pas de course effrénée dans les arbres, pas de projectiles insolites, pas de cris d'intimidation, pas de postures impressionnantes. Ils se comportent comme n'importe quelle autre espèce de singe dans Manu, nous ignorant de la manière la plus insolente, vaquant à leurs occupations banales. Comprenez ma déception. J'étais en train de présenter mes excuses à mon groupe quand je vois deux individus descendre un peu plus bas dans les branches, nous offrant une superbe observation. Voilà qui allait me faire pardonner d'avoir anticipé sur leur comportement. C'est alors que la femelle nous tourne le dos et relève la queue. Il n'en faut pas plus au mâle pour lui grimper sur les chevilles et nous offrir le spectacle pornographique animal le plus explicite qu'il m'ait été donné d'observer. La scène aurait été parfaitement accueillie par le public si je n'avais eu, pour la première fois, une jeune passagère américaine de 11 ans qui n'avait pas prévu de prendre de l'avance sur ses cours d'éducation sexuelle pendant les vacances. Mais la qualité du public ne semblait pas gêner le singe laineux qui enfonçait voluptueusement son appareil d'intromission dans la femelle ravie de se donner en spectacle. Aucun détail ne manquait, tout était parfaitement visible et dénué de toutes sortes de pudeur.
Bon, et au sol, certainement, on voit aussi d'autres animaux.
À force de multiplier les expéditions en forêt, on finit inévitablement par vivre des événements inédits, inhabituels ou tout du moins originaux. Lors d'une longue balade sur un sentier amazonien, je trottais en tête d'un cortège qui s'étirait et se ratatinait à chacun de mes arrêts. Sur le chemin au loin, à peine visible entre les feuilles gigantesques, j'aperçois un faon, presque immobile, face à nous. J'indique en silence à mes passagers de s'arrêter rapidement. L'accordéon se comprime et tout le monde se penche à droite, à gauche, pour voir ce qui a justifié cette halte si soudaine. Au travers de jumelles, nous admirons tous ce petit être fragile qui semble peu gêné par notre présence encore distante. Après quelques minutes, je décide que nous pouvons nous approcher lentement et en silence. Nous sommes maintenant incroyablement proches d'un jeune mazame rouge, c'est son nom commun, qui, de toute évidence, n'a pas encore appris à se méfier de plus gros mammifères. Le mazame est un cerf amazonien de petite taille. J'explique à voix basse à mon groupe qu'il a sans doute perdu sa mère récemment et que les règles de méfiance ne lui ont pas encore été inculquées. Il n'y a plus besoin de jumelles pour l'observer. Tout le monde retient son souffle et reste abasourdi devant la confiance que nous donne ce jeune animal. Pendant une bonne quinzaine de minutes, nous restons devant un égaré de la forêt tropicale, un échappé des lois naturelles qui nous fait face sur le chemin, la tête basse, humant le sol, le regard à peine intrigué.
Et ça a duré combien de temps ?
Je ne me souviens pas. Mais assez longtemps pour que je finisse par dire « Bon, ben, c'est pas tout, mais il faudrait peut-être qu'on pense à rentrer avant la nuit, nous. » Je me dis que nous l'avons tous bien vu et que nous pouvons nous rapprocher encore au risque de l'effrayer et de le perdre de vue. Je dois dire que je n'avais jamais eu une observation aussi parfaite et aussi longue. Nous avançons donc très lentement, silencieusement, pas à pas sur le sentier que nous partageons avec le faon. Incroyable, il ne bouge toujours pas. Nous sommes maintenant à moins de 10 mètres d'un mammifère sauvage d'Amazonie et il ne semble toujours pas avoir compris que dans ce cas, il est censé courir dans la forêt pour échapper aux prédateurs potentiels que nous sommes. Aurait-il compris que nous ne sommes pourvus que des meilleures intentions pour lui ? Ou est-il un kamikaze, un messager ? Ces questions valsaient dans ma tête quand le faon a fait ce que j'attendais le moins de lui. Il s'est approché de nous, réduisant la distance qui nous séparait à moins de 6 mètres. Il a complètement remis en question mes connaissances sur le comportement animal sauvage. Je me suis carrément assis par terre et j'ai rêvé de le prendre dans mes bras. Le vieux rêve de Bambi. Le petit enfant de mon inconscient a refait surface en pleine Amazonie. J'étais à 6 mètres de réaliser ce dont tous les enfants au monde ont rêvé de toute leur force. En tendant les bras, il ne me restait plus que 5 mètres pour câliner un petit faon qui ne semblait pas réfractaire à mon intention. J'ai rappelé à mes passagers qu'ils avaient le droit de le prendre en photo. Ahuri, ils avaient oublié. Il a fini par prendre lentement le chemin de la forêt, quittant notre sentier, quittant nos vies. Mais les photos ne montreront pas l'aspect le plus incroyable de notre rencontre. Le temps que nous avons partagé avec ce représentant de la faune animale amazonienne, cet échange si particulier, si unique.
On a peu évoqué les félins. Où se cachent-ils ?
Le gros félin tacheté de l'Amazonie est le jaguar, qu'on se le dise. Une passagère à Manou m'avait demandé un jour si les chances de voir un léopard étaient raisonnables. J'ai vu dans ses yeux que je l'avais presque choqué en lui répondant qu'elles étaient catégoriquement nulles. Je lui ai ensuite dit qu'elle s'était trompée de continent, mais elle a insisté plusieurs fois pendant le voyage. Quand est-ce qu'on voit un léopard ? Enfin, je veux dire un jaguar. Un peu comme si le guide était un magicien et pouvait sortir de son chapeau les animaux à la demande. Toujours est-il que, si personne n'a jamais vu un seul léopard en Amazonie, j'ai fini par voir des jaguars, mais il m'a fallu du temps. Ça n'est pas exactement un animal facile à rencontrer. L'observation la plus courante, ou disons la moins rare, est le long de la rivière, depuis un bateau, au petit matin. Souvent, le félin se repose allongé sur la berge. Les 6 premiers mois que j'ai passés en Amazonie, je guidais dans la réserve de Tambopata, et les félins n'ont pas vraiment été démonstratifs avec moi. J'ai commencé à me trouver vraiment malchanceux quand j'ai réalisé que j'étais le seul guide du lodge à n'avoir jamais vu de jaguar, ni même un petit oslo. C'est un autre félin, un petit peu plus petit et plus commun. Un jour là-bas, donc à Tambopata toujours, j'ai guidé un couple d'Espagnols qui étaient en voyage de noces. Ils étaient très sympathiques, mais totalement ignorants de la vie sauvage. J'ai presque cru devoir leur préciser que ces grandes choses vertes dressées sur un gros poteau marron s'appelaient des arbres. Après 2 jours de balade dans la forêt, à leur expliquer le béaba de la nature, je leur ai conseillé d'aller se promener tout seul, avec une carte, et puis de vivre leur propre expérience. Ils avaient très peur et ils étaient très réticents, mais ils ont fini par accepter. À leur retour, ils se sont précipités vers moi et m'ont raconté tout excité qu'au détour d'un virage à une centaine de mètres du camp, ils s'étaient retrouvés nez à nez, à moins de 10 mètres, avec une sorte de gros chat d'1 mètre de haut plein de taches sur le dos. Je me suis liquéfié.
Et toi, tu as fini par en voir ?
Alors c'est à Manou que j'ai vraiment commencé à voir des félins. L'anecdote la plus marquante est celle d'un groupe extrêmement chanceux, composé d'une famille de 4 Américains, d'un couple de Suédois d'une 20aine d'années, et d'un père qui voyageait avec son fils de 13 ans. Le Suédois était un amateur d'oiseaux et toute l'équipe d'une manière générale était très intéressée et pleine d'enthousiasme. En descendant le Madre de Dios, nous commençons par voir l'aigle le plus puissant du monde, très rare et difficile à voir, une harpie féroce. De toute ma carrière en Amazonie, je n'en ai vu que 2. Vous imaginez mon émotion.
Alors, raconte-nous cette rencontre.
J'ai d'abord repéré au loin une silhouette qui ne ressemblait pas à celle des vautours omniprésents. Puis jumelles, interrogation, identification, non, si. Et à ce moment, il paraît, je ne m'en souviens pas, que j'ai prononcé une phrase qui a dépassé mon vocabulaire habituellement très professionnel. Fucking hell, it's a harpy eagle. En anglais dans le texte. La seule observation de cet oiseau est tellement incroyable et précieuse qu'elle garantit le succès du voyage. Le soir, le champagne a coulé à flot, les récits et les odes à l'oiseau rare sont nés, les esprits étaient à la fête. Bien entendu, toutes les autres espèces courantes abondaient et l'expédition se poursuivait joyeusement. Lors d'une balade nocturne, nous avons vu quelques raretés comme un tatou ou un olingo, un petit mammifère de la famille du raton laveur. C'est la seule fois que j'ai jamais vu un olingo. Puis, je m'arrête en chemin, intrigué par le reflet d'une paire d'yeux sur le sentier. Avec plusieurs lampes de poche et mes jumelles, je me concentre sur la bête qui pourrait bien être propriétaire de ces objets brillants. Je me retourne en murmurant « C'est un puma !»
Alors le puma, c'est également un pensionnaire de l'Amazonie.
Eh oui, on l'oublie souvent, on l'ignore souvent, mais il y a des pumas en Amazonie. Je suggère donc à mon groupe de s'approcher en silence, sachant que ce félin, dans ces conditions, ne présente pas de danger majeur. Deux pas plus loin, je manque de marcher sur un serpent corail, un superbe serpent, assez rare et très venimeux, mais pas agressif du tout. La réaction de la mère américaine restera alors dans les annales. « On s'en fout de ton serpent corail, on veut voir le puma !» On en a beaucoup ri par la suite. Bref, se trouver en face d'un puma, en pleine nuit dans la forêt amazonienne, après avoir vu un serpent corail, une harpie féroce et plein de raretés, faisait de ce groupe le plus chanceux de tous mes groupes. Les soirées devenaient de plus en plus animées, tous étaient conscients qu'ils vivaient un moment unique de leur vie, et moi y compris. Au retour, en descendant la rivière Manou, nous étions en train d'énumérer tous les oiseaux rares qui avaient accepté de poser dans nos jumelles. Nous étions grisés par le succès, enivrés par toute la chance qui était tombée dans notre escarcelle. Quand je sursaute, le bras tendu vers la rive droite, noblement allongé sur le sable, la carte majeure qui manquait à notre palmarès, prestigieux, s'étirait paresseusement et nous a offert 20 minutes d'observation majestueuse. Le gros chat d'un mètre de haut avec plein de taches sur le dos m'était revenu.
Notre émission se termine, on se retrouvera et on suivra Maxence à nouveau en Amazonie le mois prochain. Je vous rappelle que C'est pas une vache, c'est un pangolin est une émission mensuelle que vous pourrez retrouver une fois par semaine. Les horaires sont disponibles, vous les trouvez très facilement sur le site internet d'Alternante, alternantefm.net, et également en podcast à l'issue de ces diffusions sur nos ondes. À très bientôt.